commentaire de Serge Paquin.
Monsieur Paquin.
Martin.
Ben, ça va, Serge?
Super bien.
Good. Avant de parler de gouvernance et de salaire des élus à la ville de Sherbrooke avec le rapport qui a été rendu public cette semaine, que je cherche encore beaucoup d'explications, mais que je trouve pas. Mais bon, on aura l'occasion de t'entendre là-dessus. Parlons, entre autres, de la position des commissions scolaires anglophones versus la laïcité.
Ouais. Ben, tu sais que c'est aujourd'hui que se termine la commission parlementaire, là, qui entend les différents intervenants sur le dossier de la laïcité. Et deux interventions que j'ai trouvées marquantes cette semaine. Tout d'abord, celle du professeur Guy Rocher, qui est un sociologue, un éminent sociologue qui a participé aux travaux associés à la Révolution tranquille, à la réforme du système d'éducation au Québec. Il était membre de la commission parents.
Mm-hmm.
Et M. Rocher, du haut de ses 95 ans et de ses 60 ans d'expérience à titre d'enseignant, nous mentionnait que, écoutez, dis-moi, j'ose croire que, comme j'ai enseigné pendant 60 ans, j'ose croire que j'ai eu de l'influence sur les étudiants. Alors, tu sais, quand on parlait du fait que le professeur est un modèle, ben, ce n'est pas neutre, effectivement, le port de signes religieux. Puis il mentionnait également que la priorité, ça devrait être de protéger les enfants et non pas de donner priorité à ceux qui tiennent à imposer le port de leurs signes religieux.
Alors pour moi, c'est assez clair quand même comme message.
C'est clair, puis je pense qu'il a été bien entendu.
Oui.
Et de l'autre côté, on a eu les commissions scolaires anglophones de Montréal, avec le directeur général de cette association, qui est un ancien député libéral, qui a siégé, je crois, quelques 14 ans à l'Assemblée nationale, M. Russell Kopman.
Mm-hmm.
Et lui, deux énormes déceptions. Tout d'abord, il disait que quand on lui posait la question « Est-ce que les commissions scolaires vont appliquer la loi, qui est la loi de tout le monde? », il refusait de se prononcer là-dessus. Et deuxièmement, M. Kopman est venu soutenir devant la commission que selon lui, la loi ne pourrait pas s'appliquer aux commissions scolaires anglophones. Puis ça, en vertu d'un jugement de 1990 qui concernait le gouvernement de l'Alberta, et j'ai été vérifié, c'est un jugement qui porte surtout sur la question des droits linguistiques et non pas des droits religieux. Alors,
Une nuance importante.
On verra éventuellement ce que les tribunaux en décideront, là, mais je serais très surpris que,
parce que on le sait
son
déjà
argument
que,
tienne la route.
Ben c'est ça, mais on le sait déjà que cette loi-là, même si elle est de, parce que là, on parlait probablement d'adoption même sous le baillon, elle risque fort d'être testée devant les tribunaux. Ça, c'est assez évident. Là.
Même si on a recours à la clause dérogatoire, je pense qu'il y aura quand même des recours qui vont s'exercer, mais je pense qu'avec l'application de la clause dérogatoire, le gouvernement ne devra pas avoir de problème à ce que la loi soit maintenue. Mais ce qui est en cause, le point de vue de ces commissions scolaires anglophones-là, c'est un peu comme si on réclamait un régime d'apartheid. Tu te souviens, en Afrique du Sud, là, il y avait un développement séparé pour les populations noires et les populations blanches. Alors, la prétention des commissions scolaires, c'est de dire que pour elles, la loi ne serait pas s'appliquer. Alors, puis M. Legault, je pense, a eu la bonne réaction. Il a dit, écoutez, on est 8 millions de Québécois, là. La loi va s'appliquer à 8 millions de Québécois, qu'on soit d'une appartenance à une minorité, à la majorité, qu'on soit anglophone, allophone ou francophone. Alors, je pense
parce que tant qu'à ça, on pourrait quasiment impliquer Eastern Township, là.
Probablement qu'ils pourraient invoquer le même jugement, mais on en entend de tout ça.
Oui, absolument. François Legault a-t-il parlé des deux côtés de la bouche lorsqu'il s'est adressé aux élus réunis aux assises de l'Union des municipalités du Québec? Parce que c'était une promesse électorale de verser aux villes-municipalités 1% la TVQ en revenus supplémentaires pour soutenir les villes. Par contre, le supplémentaire, il faut le rayer parce que ça semble assez clair que c'est à coup nul.
Ouais.
Alors,
là, on parle d'un montant extrêmement important. On parle de 765 millions pour l'ensemble du Québec.
Mm.
Et ça, c'est une vieille revendication des villes d'obtenir 1% de la taxe de vente, des produits de la taxe de vente, parce qu'on le dit souvent, les villes sont prises uniquement avec des revenus basés sur la taxation foncière et ce n'est pas suffisant dans le monde dans lequel on évolue. Mais M. Legault a raison. L'engagement clair qui avait été pris pendant la campagne électorale, c'était l'effet, on va verser 1% de la taxe de vente du Québec aux villes, mais ce sera un coup nul parce qu'on va éliminer un paquet de subventions, mais vous aurez à gérer vous-même cet argent-là. Et le Parti libéral, qui questionnait le premier ministre Legault là-dessus en chambre, lui-même avait fait exactement le même engagement. C'était à coup nul, son engagement, quand on regardait les montages financiers des villes. Mais là où c'est intéressant, c'est le fait que cette taxe-là... Ça a un potentiel d'accroissement important.
Oui.
Parce que là, c'est relié à l'activité économique. Puis c'est un peu ça aussi, la revendication des villes. Oui. Ça nous prend des revenus qui fluctuent selon l'activité économique. Alors, ils ont quand même gain de cause à cet égard-là.
Oui. Là où, comme ça a été le cas dans la majorité des pactes fiscaux ou fiscaux négociés entre Québec et les villes municipalités, c'est que tu prends d'un bord... tu donnes d'un bord, tu prends de l'autre. On l'a vu par le passé, puis on se souviendra que le dernier pacte, les municipalités avaient un peu perdu au change dans leurs négociations avec les libéraux. Cette fois-ci, les municipalités espèrent en avoir davantage, mais c'est pas clair encore.
Ce qu'on réclame, ça, encore là, c'est une vieille revendication, c'est que le gouvernement paye pleinement ces enlieux de taxes pour les immeubles qui sont de propriété.
C'est à 70% là?
C'est à 80% en général, mais pas des nuances selon qu'on est dans le réseau de la santé.
Parce que pour les hôpitaux, des écoles...
C'est ça, l'université, tout le réseau d'éducation en général, le réseau de la santé, puis les propriétés où on retrouve des bureaux gouvernementaux.
Okay.
Tout ça, c'est des enlieux de taxes, mais qui ne sont pas pleinement imposés. Et ça représente pour les villes 135 millions de dollars pour
à l'échelle
du... Oui.
Et surtout pour une ville comme Sherbrooke.
Exactement, où on est un centre administratif important. Fait que probablement que pour Sherbrooke, ben écoutez, je n'ai pas eu le temps de vérifier le calcul, là, mais je dirais que c'est au minimum 5 millions de dollars récurrents par année. Mais on n'a pas senti beaucoup d'ouverture.
Si Québec paie 100% de ses taxes municipales.
Bon, puis ce qui serait logique, hein, tout le monde doit assumer son fardeau fiscal. Le fédéral le fait d'ailleurs.
Oui.
Mais il y a beaucoup moins d'immeubles fédéraux, malheureusement.
Oui. Parlant de la ville de Sherbrooke, avec le rapport Tanguay diffusé lundi, qui sera d'ailleurs traité par le conseil mardi soir, on devait nous amener quand même des propositions pour la révision des salaires et la gouvernance, puis les fameux comités. T'en penses quoi, Serge?
J'étais un peu surpris. Moi, je m'attendais effectivement, puis j'ai vérifié dans le communiqué de presse qui a été émis, le rapport Tanguay devait aussi porter sur la gouvernance, revoir le fonctionnement des comités, tout ça, parce qu'il y a un lien à faire entre la rémunération puis le nombre de comités. Alors là... Oui. M. Tanguay renvoie la balle au conseil municipal et il dit « Vous devriez faire le ménage dans votre gouvernance. »
Sans proposer de concret. Là.
C'est ça. Alors moi, je pense qu'il aurait été intéressant, parce que c'est quand même un rapport qui a pris un certain temps, certaines ressources. Alors moi, je m'attendais à avoir une proposition complète. Évidemment, ça appartient au conseil municipal en bout de piste de décider ben, avec quoi il veut travailler, c'est quoi ses outils de travail en fonction de ses... orientations, de sa vision stratégique,
au moins...
mais d'avoir une proposition.
Oui.
Et je pense que c'était ça l'idée de départ, c'est ce qu'il y avait dans le mandat. Malheureusement, on n'a pas ça. Alors, pour ce qui est de la rémunération, les élus ont convenu, M. Tanguay nous dit que les élus conviennent que leur rémunération, ils estiment qu'elle est correcte globalement. Alors ça, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on devrait, pour d'autres raisons de saine gestion, on devrait travailler avec la même enveloppe que celle qui est existante. Mais là où j'ai une hésitation, c'est quand on dit qu'on devrait monter le salaire de base de tout le monde pour un peu uniformiser, sauf pour certains comités. Si on dit qu'on augmente de 11 000 $ tout le monde et les présidences qu'on appelle des comités les plus importants, c'est à peu près ça, 11 000. Fait que là, si on monte tout le monde de 11 000, c'est comme si tout le monde... était président d'un comité d'importance, alors qu'on se dit satisfait de la rémunération globale. Je pense qu'il y a un petit peu une incongruité. J'espère que le conseil municipal va travailler avec la même enveloppe. Et quant à moi, c'est rare des rémunérations où on ne tient pas compte de la formation,
l'expérience
et du talent des gens.
Ouais.
Bon, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on rééquilibre un peu les choses, mais quand tu assumes une présidence d'importance, tu ne fais pas juste assister aux réunions, il y a un travail à faire entre les réunions qui appartient oui. au président ou à la présidente, oui. les autres membres du comité n'ont pas à faire. Oui. Alors moi, je pense que... Et puis c'est vrai partout, là, au fédéral, au provincial, il y a un salaire de base des députés, mais ceux qui sont ministres gagnent plus, ceux qui président une commission parlementaire gagnent un peu plus.
C'est ça.
Le whip...
Il y a des responsabilités supplémentaires.
À travail égal, salaire égal, c'est un principe qui vaut, mais quand on a des responsabilités supplémentaires qui entraînent plus de temps de travail, ben je pense qu'il faut équilibrer les choses dans ce sens-là.
Mais à 2 ans des élections,
ouais.
ça ne viendra pas là, là.
Je sais pas. Maintenant, la balle est dans le camp du conseil, mais moi, en autant qu'on reste dans la même enveloppe, que le conseil travaille avec ça, s'il veut apporter des changements maintenant, libre à lui de le faire. Là où je pense qu'il y a matière à réflexion également, c'est au niveau de l'allocation de dépenses. T'sais, on dit, là, maintenant, l'allocation de dépenses non imposable, qui est rendue à 17 000, je crois, va être imposée au fédéral. Qu'on compense ça, je n'ai pas autre problème avec ça, mais je pense qu'il y a une réflexion plus en profondeur à faire sur cette allocation-là. Parce que maintenant qu'existent les arrondissements, les élus qui n'ont pas à peu près pas à s'acheter de billets pour assister. Alors que moi, quand j'ai commencé, il fallait payer ça avec cette allocation-là.
Parce que ça devient du salaire, dans le fond. Là.
C'est ça. Il faudrait peut-être le réfléchir dans ce sens-là.
Parce que déjà aussi, le fonds de recherche qui existe, c'est beaucoup de sous également à la disponibilité des élus.
C'est
là.
Beaucoup de sous. Et à mon humble avis, c'est beaucoup trop de sous.
Ah oui?
Compte tenu qu'on a réduit le nombre d'élus, bien là, c'est la même enveloppe parce que c'est un pourcentage du budget. Puis là, on se retrouve à 20 000 $ chaque élu, à mon avis. C'est nettement, nettement exagéré. Puis là, j'ai entendu certains commentaires cette semaine à ton antenne sur le fait qu'il y a une utilisation questionnable dans certains cas de cette enveloppe-là. Là, il y a peut-être quelque chose
à faire du ménage.
À garder aussi, mais je pense que c'est le gouvernement qui délimite les paramètres, là, le pourcentage du budget qui doit être dévolu.
Mais qu'il y ait au moins un suivi des vérifications qui soient claires, nettes et précises, mais qu'on les fasse, les vérifications.
Ben, je pense, c'est sûr que c'est la responsabilité de l'élu qui réclame un remboursement de dépenses. Il y a une responsabilité, mais je pense qu'au niveau administratif, on pourrait exercer un certain droit de regard pour empêcher les abus.
Parce que de dire que il y a personne qui dépense le montant maximal, maximum, c'est une chose, mais encore faut-il savoir à quoi sert vraiment. Puis je comprends qu'il y a des noms très souvent à côté là, de la somme qui est versée là, par un conseiller ou une conseillère, mais est-ce que c'est pour du travail fait? Parce que ça soulève toujours des questions. Moi, à chaque fois que j'ai les rapports, me pose des questions.
C'est sûr que ça prend un minimum d'informations pour voir si la dépense est...
Parce qu'actuellement, on estime entre 60 et 100 000 le salaire du conseil municipal. Du moins cher payé à la plus chère payée qui est Nicole Bergeron.
Avec les allocations de dépenses.
Oui, mais le maire est plus haut.
Au niveau de la rémunération des élus, là où il y a du travail, de l'amélioration à apporter, c'est les élus provinciaux qui, eux, sont nettement sous-payés par rapport au fédéral puis par rapport à la tâche effectuée.
Absolument.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de démagogie quand vient le temps de discuter de ces questions-là entre les partis politiques.
Merci, Serge Paquin.
Merci, Martin.
Bonne semaine.
Bonne semaine à toi.